A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattable. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'un million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année comme Bache, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande, des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand on perd tout, que la lumière est éteinte, rien ne vaut l'amour pour retrouver la vie. Margot a vécu la descente aux enfers, mais son sauveur a tout changé.
Donc on est à la fin 2016, j'ai 21 ans, je suis en train de finir mes études d'infirmière. Il me reste une année avant d'être diplômée et je fais la rencontre par le biais de connaissances de ma mère, de Jennifer, qui est l'amie d'une amie de ma mère et qui vient assez souvent à la maison. On est dans la même tranche d'âge, elle est plus jeune que ma mère, donc elle se rapproche de mon âge. Et on se côtoie du coup assez régulièrement. À chaque fois que je suis chez ma mère, je la croise. Et puis petit à petit, on noue une amitié toutes les deux. On se voit de plus en plus toutes les deux. On passe des moments ensemble. On a beaucoup de choses en commun. On rigole beaucoup. On discute de plein de choses. Moi, ça me fait du bien. Je suis dans une période où je me sens un peu seule parce que j'ai eu pas mal de relations depuis que j'ai commencé l'école d'infirmière, mais qui n'aboutissent pas. C'est vite conflictuel, on se lasse. Donc du coup, je me sens assez seule à ce moment-là. Je vis toute seule dans mon petit appartement d'étudiante. Et ça me fait du bien à ce moment-là d'avoir une amie sur qui compter. On s'écrit tous les jours, on se voit très souvent. Et donc, elle devient un peu ma confidente. On se parle de tout et ça fait du bien. Donc elle est dans un moment de sa vie où elle a son propre appartement, elle est célibataire, elle a jamais eu vraiment de relation. Du coup, elle est très disponible. C'est ça qui fait que, pour le coup, on est très très proches. Et à Noël, donc 2016, on passe Noël du coup avec ma famille, avec ma mère, mon frère, et elle est invitée. Et on est très 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 proches, on rigole beaucoup. Et à partir de ce Noël-là, je commence à avoir des doutes sur une possible attirance envers elle. Moi, j'ai jamais été attirée par d'autres femmes dans ma vie. Après, j'ai jamais été fermée à l'idée non plus, mais ça n'est jamais arrivé. Et elle, à ma connaissance, elle n'est pas du tout attirée par les femmes non plus. Donc, du coup, c'est quelque chose que je garde pour moi. J'arrive pas à m'expliquer ce que je ressens, mais je sens que c'est un peu plus que de l'amitié, j'ai beaucoup trop besoin d'être avec elle, beaucoup trop besoin de contact, je vais chercher des câlins, de la tendresse. Alors c'est vrai que je suis à un moment vraiment, comme je disais, de ma vie où je me sens seule. Donc du coup, peut-être que ça vient de là. Du coup, je me pose beaucoup de questions et avant de le dire à quelqu'un et tout, j'ai besoin d'être sûre de moi, donc je le garde beaucoup pour moi en fait. Ça dure plusieurs mois comme ça où ça s'intensifie. Je me rappelle le jour de l'an d'après, c'est encore plus fort. J'ai envie de dormir avec elle ce soir-là. Vraiment, je recherche le contact. Et je sens qu'elle n'est pas non plus fermée à ce contact-là. Donc on commence à rentrer dans une relation qui est un peu plus ambiguë, où on est vraiment plus proche que des amis classiques. En tout cas, moi, j'ai jamais vécu d'amitié comme ça. Du coup, ça me perturbe un petit peu. Elle vient à la maison, on dort dans le même lit, on se réveille, on est dans les bras l'une de l'autre, en train de se câliner. Quand elle vient le week-end, le dimanche matin, on reste au lit, à se faire des caresses. Rien de sexuel, mais vraiment beaucoup de tendresse. Et là, je commence à me dire que ouais, c'est pas juste une impression, c'est pas juste une solitude ou quoi, c'est que vraiment je suis très attirée par elle. Mais du coup, j'ai peur que ce soit pas réciproque. C'est tabou. Je veux pas la gêner. Je suis pas sûre de. J'ai l'impression qu'elle m'envoie des signaux d'ouverture. Et en même temps, j'ose pas lui en parler parce que j'ai peur de sa réaction, j'ai peur de perdre notre amitié. Et au mois de mars 2017, je suis chez elle, pareil pour un week-end. On se réveille le matin, on se câline comme d'habitude. Et là, elle m'embrasse. Donc, sur le coup, je suis un petit peu choquée, mais je lui rends son baiser. On finit par s'embrasser toute la matinée. Et on finit tout de suite par discuter et à se dire, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu bizarre, c'était pas prévu. Donc on décide de garder un petit peu ça secret pendant quelques temps parce que bah, vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de nos amis qui pourraient ne pas comprendre. Et puis très rapidement, ça se voit en fait, tout le monde le voit parce qu'on est encore une fois tout le temps ensemble et il y a des regards qui trompent pas, donc tout le monde comprend qu'on débute une histoire d'amour. C'est la première fois pour toutes les deux avec une femme, donc on va avoir nos premiers moments d'intimité sexuelle, toutes les deux ensemble. Elle, c'est carrément la première fois tout court. Elle a jamais eu de relation sexuelle, même pas avec un homme. Donc, on est toutes les deux dans la découverte. Et c'est assez fluide. On est à l'aise toutes les deux ensemble. On se rend compte qu'on a de forts sentiments l'une envers l'autre. On peut dire très amoureuses l'une de l'autre. On partage tout. On se quitte plus, en fait. On est vraiment tout le temps ensemble. Et puis, je finis mon école d'infirmière au mois de mars 2018, du coup. J'emménage avec elle. Et très rapidement, on fait des projets et on décide de partir à Nancy. C'est la ville où vit sa maman. Et moi, j'avais repéré pendant un week-end de vacances là-bas. Un hôpital pédiatrique et du coup je suis très attirée par l'idée de travailler là-bas, c'est mon projet de carrière de travailler avec les enfants. On décide de prendre nos affaires et de partir habiter à Nancy toutes les deux. On trouve tout de suite un appartement dans lequel on se sent très bien. Elle a déjà un petit chat à cette époque-là, on en prend un deuxième. On vit vraiment une vie bah, parfaite en fait. C'est exactement ce que j'attendais de ma vie d'adulte. J'ai le boulot de mes rêves. Moi, depuis petite, je veux être infirmière. Ça a toujours été. Et au fil de mon cursus, je découvre le travail en pédiatrie et je tombe amoureuse de ce travail-là. Je fais beaucoup de mes stages avec les enfants et c'est ce que je veux faire de ma vie. J'en suis persuadée, quoi. Elle, au niveau professionnel, elle n'a pas forcément de projet. Elle n'a pas fait d'études, elle n'a pas de job qui l'intéresse. Moi, je suis passionnée par mon métier et elle, en parallèle, elle se rend compte qu'il n'y a rien qui la passionne vraiment. Et du coup, c'est un peu compliqué pour elle au niveau professionnel. Donc, quand moi, je rentre du travail, souvent, bah, je suis fatiguée, c'est des longues gardes, etc. Et elle est à la maison, elle ne travaille pas et elle s'occupe du coup de la maison, elle s'occupe du repas. Enfin, c'est elle qui gère un peu plus à la maison. Clairement, elle m'attend. Ça, elle le dit souvent et moi, je le ressens aussi. Elle m'attend toute la journée. Je reçois beaucoup de SMS tout au long de la journée. Petit à petit, moi, je commence à me sentir un peu oppressée de cette situation. Elle n'a pas vraiment de vie sociale à l'extérieur. Quand on arrive dans une nouvelle région, en général, on sociabilise grâce à notre emploi. C'est vrai que comme elle n'en a pas, Elle ne se fait pas de nouvelles connaissances. Donc, elle connaît vraiment personne sur place. Moi, à l'inverse, au travail, je sociabilise beaucoup. Je me fais un réseau avec mes collègues. On sort, on partage beaucoup et on rigole beaucoup. On a besoin de décompresser après nos grosses journées de travail. Donc, c'est vrai que j'ai mon petit cocon avec mes collègues. Et elle, je vois qu'elle voit personne. Et du coup, elle se cantonne à moi. Elle est fermée autour de moi. Et moi, ça commence à me peser. Petit à petit, au fil des mois, je sens qu'il y a un décalage qui se met en place. Jennifer, elle m'a toujours mise sur un piédestal, elle m'a toujours vue comme quelqu'un d'extraordinaire, comme quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition. Elle a toujours pensé que j'étais mieux qu'elle, meilleure qu'elle. Et moi, j'en faisais pas trop cas parce que pour moi, elle était tout aussi intéressante. Et au fur et à mesure des mois, je sens que ça devient de plus en plus présent, cette distance qui se met entre nous. Elle me voit comme son pilier, comme la référence en fait. Elle ne voit que par moi de toute façon, puisqu'elle n'a pas de travail, elle n'a pas de but. Son seul but à elle, c'est nous, c'est notre couple, c'est notre vie. Et ça, c'est génial d'avoir quelqu'un qui s'implique autant dans une relation, mais pour le coup, c'est trop. Et plus elle s'implique, plus moi, je me désimplique, si on peut dire. Et plus je sens un lien qui se détache en fait. On n'a plus la même vie. Parfois, je culpabilise de l'avoir amenée à Nancy, de l'avoir éloignée d'une partie de sa famille et de ses amis, parce que je me rends compte qu'elle est très seule. Et ça, j'ai beau essayer de lui répéter souvent qu'elle s'oublie et qu'elle ne peut pas penser qu'à moi, elle doit aussi penser à elle. Elle n'écoute pas. On se retrouve assez vite dans une impasse où moi, je me sens plus bien dans mon couple parce que, en fait, j'ai trop de pression sur mes épaules. J'ai l'impression de tout gérer, d'être le maître de cette relation et je suis plus aussi à l'aise dans cette relation. Petit à petit, il y a aussi d'autres problèmes qui viennent se rajouter à ça dans notre intimité. C'est vrai qu'avant, j'ai eu des relations avec des hommes et finalement, sexuellement avec elles, je suis pas forcément très épanouie. Ça se passe bien, j'ai rien à dire, mais il me manque quelque chose. Et ça, je m'en rends compte assez vite dans notre relation. Mais au début, j'en fais pas cas, c'est pas ce qui a la plus grande importance pour moi. Et puis petit à petit, au fil des années, ça commence à prendre son importance et je le vis pas très bien. Du coup, je me pose beaucoup de questions. Et je suis partagée parce que j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé. J'ai un couple parfait. La seule chose que j'ai à reprocher à ma copine, c'est qu'elle soit trop impliquée dans notre couple. Et du coup, je suis un peu perdue. J'arrive pas à m'épanouir dans ce couple. Et en même temps, j'arrive pas à renoncer parce que je me dis, si je suis pas épanouie dans ce couple, bah avec qui je pourrais être épanouie? Je me dis, si j'arrive pas à aimer cette femme qui est complètement dévouée à moi, qui je pourrais aimer. Donc du coup, j'ai comme ça, on va dire, 2, 3 mois de flottement. J'essaye toujours de sauver mon couple, en fait. Donc je fais comme si tout allait bien. On fête nos 2 ans, c'est très romantique. On parle de se pacser, mais à côté de ça, moi, j'en parle parce qu'il faut faire des projets, parce que j'ai envie que mon couple fonctionne, mais en même temps, je suis pas convaincue et au fond de moi, je ressens bien que bah, je peux pas passer ma vie comme ça. Je finis par me dire carrément que je m'ennuie dans cette relation et que je me vois pas faire ça toute ma vie, quoi. Petit à petit, je commence à réfléchir à une séparation, mais je me rends bien compte que je vais la détruire en fait, parce que elle, pour le coup, elle a placé notre relation sur un piédestal, et si je la quitte, je pense qu'elle tombe de très haut et clairement, elle n'a plus rien. Je suis un peu le cul entre deux chaises, je sais pas trop comment agir, et je pense qu'à un moment donné, je cherche un prétexte pour m'en aller. Alors, je commence à discuter avec un ex-copain, comme ça, qui vit toujours en région parisienne. Et je m'offre ce prétexte d'être entre guillemets infidèle pour la quitter en fait. Je lui annonce que je souhaite me séparer. Dès le début, dès que je lui dis que voilà, que c'est plus possible, que je me sens pas épanouie dans mon couple, elle s'effondre. Elle s'effondre et elle me supplie de rester. En fait, quand je la vois au plus mal, j'ai très mal. J'ai très mal parce que c'est une personne avec qui j'ai partagé 2 ans de ma vie, une personne que j'ai aimée, une personne que j'apprécie énormément. Mais au fond de moi, je suis sûre de ma décision. Au début, il se passe rien. Tout le monde reste à la maison. Moi, j'ai mon travail, donc pour l'instant, je ne peux pas partir. Elle a sa mère qui habite pas loin, mais elle refuse d'y aller. Je pense qu'elle est dans une tentative de sauvetage de notre couple. Elle me supplie de me remettre avec elle. Et moi, je lui fais comprendre tout de suite que ma décision, elle est prise et que je ne reviendrai pas dessus. J'estime qu'elle mérite mieux et même si je lui fais beaucoup de mal sur le moment, moi je suis dans mon idée que c'est pour lui offrir aussi une meilleure vie et que tout ce que je veux c'est qu'elle soit aimée autant que elle a pu m'aimer parce qu'elle le mérite en fait. Au final, elle finit par partir. Moi, je reste dans l'appartement, je reste dans mon travail et en fait, je continue ma vie comme ça toute seule à la maison. En parallèle au travail, ça se passe pas très très bien. Ça fait quelques temps déjà, un petit peu avant la séparation, je fais des petites erreurs sans gravité de débutante en fait. Et en fait, je suis pas du tout soutenue, ni par mes collègues, ni par ma hiérarchie. Je suis plutôt même descendue. Et petit à petit, en fait, mon rêve à l'hôpital est en train de se transformer en cauchemar. On me dénigre, on me dit que j'ai pas choisi le bon métier, que j'aurais dû faire autre chose et qu'il est pas trop tard pour changer. Moi, je le vis très très mal, hein. Comme je l'ai dit, c'est mon rêve, j'ai toujours voulu faire ça. Et là, je me retrouve face à des collègues qui s'en prennent à moi et c'est très très compliqué. C'est très compliqué parce que pour le coup, là, c'est moi qui tombe de mon piédestal et ça fait mal. Je perds complètement confiance en moi. En fait, je les crois. Moi aussi, je me dis que je suis peut-être pas faite pour être infirmière. Sauf que le problème, c'est que si je suis pas faite pour être infirmière, je ne sais pas pourquoi je suis faite, puisque j'ai toujours voulu faire ça. J'essaye de garder la tête haute, j'essaye de me reprendre, j'essaye de travailler et de donner mon maximum. Mais je vois bien que, en fait, tous les efforts que je peux faire n'effacent pas la réputation qui s'est accrochée à moi, je suis très sensible et du coup pour moi c'est l'enfer d'aller travailler, ça devient compliqué, tous les jours j'ai la boule au ventre, ça m'affecte, ça me rend triste, je suis effondrée. En fait, je suis en train de tout perdre en même temps, je viens de me séparer et malgré que je suis sûre de ma décision, ça me fait peur, ça m'angoisse. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver quelqu'un d'aussi bien que Jennifer et surtout si j'arriverai un jour à aimer quelqu'un. Et à côté de ça, je me raccrochais à mon boulot, c'était tout ce que j'avais et je le perds aussi, je suis perdue. Pour moi, il est hors de question de quitter ce boulot, même si j'y pense, mais j'arrive pas à me faire à l'idée. À la base, je me retrouve à Nancy parce qu'on est parti avec ma copine. Et en fait, j'ai plus ma copine. Donc, si j'ai plus non plus mon travail, j'ai plus de raison d'être ici. Sauf que ça veut dire tout quitter. Je me suis fait des amis. J'ai un appartement que j'adore. Mais en même temps, sans ce boulot, je peux pas assumer cet appartement. Enfin, je suis complètement perdue et je suis incapable de prendre une décision. Je suis en train de sombrer et je m'en rends pas compte à ce moment-là. Enfin, je suis en train de rentrer en dépression. Je le sens. Je pleure pour un oui, pour un non. En fait, je m'aperçois pas de l'état de détresse dans lequel je suis jusqu'au soir du 11 juillet 2019, où en fait j'ai passé une journée terrible à l'hôpital où on m'a surveillée, on m'a remis sous la tutelle d'une autre collègue alors que ça fait plus d'un an que je travaille dans cet hôpital, donc je suis très très mal et je me mets à écrire parce que c'est un truc que je fais assez régulièrement quand je me sens mal. J'écris dans un cahier mes ressentis et je suis en larmes. Et en fait, à un moment donné, j'ai un déclic. J'arrive pas bien à expliquer ce qui s'est produit dans ma tête à ce moment-là. Je suis à bout, je sais plus, je me sens dans une impasse. Je sais pas quelle décision prendre. Pour moi, tout ce qui pourrait m'apaiser, c'est que ça s'arrête en fait, que tout s'arrête, que je ferme les yeux et que tout ça ce soit qu'un rêve. Sauf que c'est impossible. Et donc, à ce moment-là, sans avoir jamais eu vraiment d'idées comme ça auparavant, je me lève et je vais dans ma salle de bain, je récupère une boîte de médicaments et je reviens dans ma chambre. À ce moment-là, souvent je le décris comme ça, j'ai l'impression d'être à l'extérieur de mon corps, j'ai l'impression de voir la scène du dessus. Je suis plus moi-même, je suis plus en possession de mon corps, c'est pas moi qui décide, ça se fait tout seul. J'attrape cette boîte et je l'ouvre, je vois tous les comprimés. Je connais ce médicament, je travaille avec à l'hôpital, je sais qu'il est très puissant. Et en fait, j'ai une idée en tête, c'est avaler tous ces comprimés et m'endormir et que tout ça, ce soit qu'un cauchemar. Je commence à décapsuler tous les comprimés. Je compte combien j'ai en termes de milligrammes de la substance. Et je regarde sur la notice à quoi ça correspond au niveau de la dose toxique et de la dose mortelle. Du coup, je suis clairement au-dessus de la dose toxique, mais je suis pas tout à fait à la dose mortelle. J'ai la notice sous les yeux, je la lis et je vois tout ce qui va se passer en fait en cas de surdosage. Je vois des mots que je connais très bien. Je suis personnel soignant, donc forcément ça me parle. Je vois détresse respiratoire, convulsion. Ça me fait peur, mais j'avale les comprimés. Je les prends tous d'un coup. Je les mets tous dans ma bouche, je les avale. Et là, il y a les mots que j'ai lus juste avant qui commencent à tourner dans ma tête. Je m'aperçois que ça peut être très long et très douloureux. Et que finalement, c'est pas juste s'endormir et pas se réveiller. C'est souffrir énormément. Donc, je commence à avoir peur. Très peur de souffrir. J'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de souffrir. J'ai peur d'avoir mal. J'ai l'impression d'avoir le cerveau embrumé. Et à un moment donné, je prends mon téléphone et j'appelle les pompiers. J'appelle les pompiers parce que j'ai trop peur de souffrir. Les pompiers arrivent à la maison. À ce moment-là, je suis encore assez lucide. Les comprimés n'ont pas encore fait tout à fait effet. Je suis toujours tremblante, en pleurs. Donc les pompiers me transportent à l'hôpital. J'arrive là-bas. À ce moment-là, je commence à être un peu plus dans le gaz. Je me sens un peu comme un lendemain de soirée. J'ai mal à la tête. Je suis fatiguée. Je m'aperçois que bah, j'ai été amenée par les pompiers et c'est bête de penser à ça sur le moment, mais je me dis comment je vais rentrer chez moi demain, parce que je pense que je vais rentrer chez moi demain. Je décide d'appeler ma mère et je lui explique. Elle est un peu sous le choc. Je lui dis juste que voilà, que j'ai fait une connerie, que j'en pouvais plus, que j'étais fatiguée. Et là, c'est le début de la pire nuit de ma vie. Je suis donc à l'hôpital sous surveillance, j'ai un scope, donc un appareil qui surveille mon cœur, ma respiration. Et bah, petit à petit, les comprimés commencent à faire effet. Ils ont pris la décision de ne pas me faire de lavage d'estomac parce que la substance est dangereuse et du coup, ça pourrait m'irriter. Enfin, à ce moment-là, j'ai la tête qui tourne, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, je vomis. J'ai jamais pris de drogue, mais je pense que ça doit ressembler un petit peu à ça. Et je me sens mal, je me sens pas bien, mais en même temps, je réfléchis plus, je pense plus. Donc c'est assez agréable. Il y a un psychiatre qui vient me voir dans la nuit, mais je suis beaucoup trop stone pour pouvoir lui parler. Du coup, il finit par repartir et me dire qu'il va revenir le lendemain matin. Et puis au bout d'un moment, je vois arriver dans la chambre ma mère et mon petit frère. Et en fait, je prends conscience de ce qui s'est passé au moment où mon petit frère me regarde et il se met à pleurer. J'ai rarement vu mon frère pleurer. il se met à pleurer et à me dire mais qu'est-ce que t'as fait, Margot? Mais tu peux pas me laisser comme ça. Tu te rends compte que si t'avais réussi ce que t'as essayé, tu nous aurais abandonnés, tu nous aurais laissés. Et là, je vois sa souffrance. Il souffre beaucoup, je le vois. Et ça me fait mal, ça me fait beaucoup de mal. Et je prends conscience de la gravité de ce que j'ai fait, en fait. Le psychiatre me dit que j'ai le droit de sortir du coup de l'hôpital à condition de sortir avec ma famille. Donc ils sont là, il n'y a pas de souci. On part de l'hôpital. Ma mère, elle est complètement dans le déni. Je pense que c'est trop dur à accepter pour elle. Du coup, elle fait comme si de rien n'était. Elle fait comme si elle me fait un petit sac pour que je vienne en vacances chez elle. Voilà, on n'en parle pas trop. À partir de ce moment-là, ça devient un petit peu tabou. Et je repars avec eux en région parisienne. J'habite chez ma mère quelque temps. Mon frère, qui normalement vit avec sa copine, vient quelque temps aussi chez ma mère pour être avec moi. On parle beaucoup à ce moment-là. Mon frère, ça devient un peu mon pilier. Au début, je suis pas du tout dans l'idée de recommencer, mais je suis pas non plus très bien dans ma peau et je me sens complètement perdue. En fait, je me sens vidée. Je sais plus où est ma place, je sais plus ce que je veux faire ou ce que je veux pas faire, je sais plus avec qui je veux être. Je recommence à avoir des idées noires. Je vois plus l'avenir. C'est comme si devant moi il y avait un brouillard très épais et en fait je sais plus ce qu'il y a devant et j'ai l'impression qu'il y a rien devant. J'ai l'impression qu'il y a un trou et que je vais finir dans ce trou et c'est tout. Ça vient sûrement du fait, oui, qu'on m'a vraiment détruit mon rêve. Je me dis que bah j'avais tout pour être heureuse. Et j'ai tout foutu en l'air. J'ai envoyé valser ma relation. J'ai fait n'importe quoi au travail. Enfin, je commence à mettre tous les torts sur moi. Je mérite pas d'être heureuse et de toute façon, j'y arriverai plus à l'être. Donc voilà. Si c'est pour vivre comme ça, je préfère pas vivre du tout. J'ai des idées noires, mais je vais pas recommencer. Je sais que je le referai pas parce que j'ai blessé ma famille. J'ai fait du mal à mon frère, ça je n'oublierai jamais, et du coup je veux pas recommencer, je veux pas le mettre dans cette situation-là. Mais il n'empêche que je vis avec cette souffrance et que j'ai quand même au fond de moi envie de mourir, donc je peux pas rester comme ça. Donc je prends la décision, c'est moi qui dis à ma famille que je voudrais être hospitalisée en psychiatrie en fait pour m'en sortir. On fait beaucoup de recherches, c'est très cher aussi et j'ai pas du tout les moyens et ma famille encore moins. Mais je me dis que ma santé est plus importante. Je finis par trouver une clinique, j'ai un rendez-vous avec un psychiatre et on discute et il me comprend. Il me parle comme à une infirmière, déjà ça me fait du bien. Moi, je suis dans l'optique de passer 2 semaines dans une clinique. Pour souffler un petit peu, reprendre pied et sortir. Je lui dis tout de suite qu'il est hors de question que je prenne un traitement, que j'ai pas envie d'être abrutie par les médicaments, que c'est juste un petit séjour de répit. Et au début, c'est horrible. C'est horrible, on se retrouve dans un environnement qu'on connaît pas, on a l'impression que tout le monde est cinglé. Du coup, on a l'impression d'être cinglé. C'est la sensation, elle est vraiment horrible. Après, on fait connaissance avec les gens, on s'aperçoit que on est tous là pour un peu la même chose. On a tous à un moment donné eu quelque chose qui nous a mis à terre et on a tous envie de s'en sortir surtout. Donc là, je commence une thérapie avec une psychologue et assez rapidement, au bout de 2 semaines, les fameuses 2 semaines que je devais rester dans cette clinique, au bout de 2 semaines. Je m'aperçois que ce ne sera pas suffisant. Donc, j'en parle avec mon psychiatre, on décide de mettre en place un traitement. Et donc, je commence les antidépresseurs et je commence réellement à me battre pour m'en sortir, en fait. Au final, je vais passer 2 mois dans cette clinique à me battre pour reprendre ma vie en main, pour sortir de ce gros brouillard. Et pour me donner les moyens de réussir, en fait. Je sors de la clinique, je vais mieux, et je retourne vivre chez ma mère. parce que mon appartement de Nancy est toujours beaucoup trop loin. Et je décide que je vais rester en région parisienne. Je donne mon préavis pour mon appartement et voilà. Et j'abandonne cette vie qui était un peu ma vie de rêve. Mais je vais mieux, donc j'ai l'espoir d'en construire une nouvelle. Après, honnêtement, je repars de zéro. J'ai 25 ans. Je vis chez ma mère. C'est pas l'environnement le plus idéal. Ma mère a refait sa vie. Je m'entends pas très bien avec son conjoint. Je dors sur le canapé. Et en même temps, j'ai pas d'emploi, donc je peux pas prendre d'appartement. Je suis toujours en arrêt de travail, donc je peux pas trouver de travail tout de suite. Et là, je me retrouve un peu toute seule. Je suis sortie de la clinique, donc pour les gens de ma famille, je suis guérie. Je vais mieux, donc on est un petit peu moins en train de prendre soin de moi. Du coup, je me dis que j'ai envie de rencontrer des hommes, mais c'est pas vraiment une recherche de quelque chose de sérieux. Donc, je m'inscris sur les sites de rencontres et puis je commence à discuter avec quelques hommes, mais sans grande conviction et sans vraiment aller plus loin que la discussion. Je passe mes journées à rien faire en fait, hein. Je travaille pas, donc du coup c'est long. Donc je discute avec ces hommes et parfois ça me fait du bien. Je tombe sur des hommes qui ont beaucoup de conversations, c'est agréable. Et un soir, le 30 octobre 2019, je discute avec un garçon qui s'appelle Valentin, qui m'envoie comme premier message une petite blague, et donc il me fait beaucoup rire. Et on commence à discuter de tout et de rien. C'est assez agréable, il est gentil, il est drôle. Et puis petit à petit, la discussion commence à devenir de plus en plus intéressante. Je sens qu'on a beaucoup de choses en commun, je sens que quelque chose se passe, qu'il y a un feeling qui passe bien entre nous. Et on discute pendant de longues heures. On se raconte un peu nos vies mutuellement. À ce moment-là, je ne raconte pas mon parcours et surtout ce qui vient de m'arriver. Mais je lui dis par contre que j'ai une sacrée histoire en stock et que je lui en parlerai peut-être un jour. Si jamais cette discussion se poursuit. Et il me dit qu'il a à peu près la même chose, qu'il a une grosse histoire, mais qu'il ne veut pas en parler pour l'instant et encore moins par message. Donc on parle pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis au final, on parle toute la nuit. Toute la nuit du 30 octobre jusqu'au lendemain matin, 8 heures, on discute, on ne s'arrête pas. Et j'arrive plus vraiment à me souvenir de quoi on parle, mais on parle de tout et de rien, on se raconte tout, on se fait rire, on rigole beaucoup, ça je m'en souviens très bien, on rigole beaucoup. Et surtout, on n'a pas envie d'arrêter de parler. Moi, je suis fatiguée, on est au milieu de la nuit, lui, il a un truc de prévu le lendemain matin, mais on peut pas s'empêcher de continuer à parler, il n'y a aucun blanc, aucun moment de creux où on pourrait s'endormir ou quoi, non, c'est... Je sens quelque chose et dès le matin du 31, du coup, je me dis, cette personne, c'est pas n'importe qui et je pense que c'est quelqu'un d'important. Donc on continue à discuter et on décide assez rapidement de se voir. 3 ou 4 jours plus tard, quand je le vois, j'ai un deuxième petit coup de foudre. Il est très beau, il est grand, j'adore les hommes grands, il est très très grand. Il a de magnifiques yeux bleus, il a une petite barbe avec des reflets roux. Il n'aime pas que je dise ça, mais il a des reflets roux dans sa barbe. Il est très beau. Et en fait, on se voit, donc on va boire un verre tous les deux. Et assez rapidement, en fait, on se dit, Bah, et si on se racontait nos fameuses grosses histoires? Donc, c'est moi qui commence et je lui déballe tout. Je suis très à l'aise avec lui. Il me regarde. Dans son regard, je vois qu'il est attentif et qu'il est à l'écoute et qu'il est certainement pas dans le jugement. Du coup, je me sens tellement à l'aise que je lui dis tout. J'avais pas prévu de tout dire, de rentrer dans les détails. Je lui raconte que j'ai voulu mettre fin à mes jours. Je lui raconte que j'ai été hospitalisée en clinique psychiatrique et que je suis sortie il y a genre un mois. Je lui raconte que je suis encore sous antidépresseur. Il a de l'empathie, mais on sent qu'il n'a pas non plus de la pitié. Il ne me regarde pas comme une personne malade. Je me souviendrai toujours, il me dit à ce moment-là, mais il n'a pas pu prévoir sa phrase puisque je lui en parle pour la première fois à ce moment-là. Et il me dit, ça me fait penser, tu sais, au Japon, quand il casse un vase ou un bol, il le répare avec de l'or fondu. Et ce vase, du coup, prend de la valeur. Et il me dit, bah, en fait, t'es un peu comme ce vase, t'as été brisé, mais tu vas te réparer et ça fera de toi quelqu'un qui aura encore plus de valeur. Et en fait, quand il me dit ça, je me dis, mais. Ok, c'est l'homme de ma vie, c'est pas possible. Il est beaucoup trop attentionné, il est beaucoup trop gentil et en fait, il le prend avec sérénité. Ça aurait pu en effrayer certains ou ça aurait pu en faire pleurer d'autres. Enfin, je m'attendais à tout type de réaction, mais en fait, il me regarde, il change pas de regard sur moi et en fait, je me sens bien et ça fait du bien. Comme je me suis ouverte et que du coup lui aussi je pense se sent très à l'aise, il me raconte son histoire à lui, qui n'est pas non plus très joyeuse. Lui, avant de me rencontrer, il était fiancé avec une fille avec qui il a passé 8 ans de sa vie. Ils se sont rencontrés quand ils étaient très jeunes. Et en fait, ils allaient se marier en mars du coup 2020, début d'année 2019. Ils sont en plein préparatif du mariage. Il y a déjà pas mal de choses qui sont réservées. Et en fait, il découvre que sa fiancée le trompe. Et quand il la met devant l'épreuve, elle avoue et elle dit qu'elle n'est pas heureuse dans son couple. Et en fait, ils se séparent comme ça. Donc lui a vécu aussi quelque chose de très traumatisant. Voilà, il pensait faire sa vie avec elle et puis au final, ça se termine comme ça, assez brutalement. C'est brutal pour lui, c'est brutal pour sa famille. Là, ça fait quelques mois qu'ils sont séparés, donc il va mieux. Et je me dis, waouh, le pauvre, ça doit pas être évident. Donc on se raconte ça, mais quasiment au début de notre rendez-vous, histoire de dire, bon voilà, si ça le fait pas, on n'a qu'à partir tout de suite. On perd pas trop de temps. Et on est très honnête en fait dès le début et ça ce sera une des bases de notre relation, c'est que on se dit tout tout de suite, on se dit tout le temps et on n'a pas de secret l'un pour l'autre, exactement comme à ce premier rendez-vous, on n'a pas eu de secret l'un pour l'autre et on s'est vraiment tout dit. Et en fait à partir de ce moment-là, je comprends que ça sera pas une relation futile, ce sera une vraie relation. Lui, il a conscience que bah, il peut pas jouer avec moi et moi j'ai conscience de la même chose. Donc en fait, on se dit, je pense, en tout cas moi je me dis, si je me mets avec cette personne, c'est pas pour partir dans 2 mois, c'est pour construire quelque chose de solide. On est dans un bar, on boit un verre, ensuite on va boire un milkshake et ensuite tout est fermé, il est très tard et on n'a pas envie de se quitter. En même temps, lui aussi vit chez ses parents depuis sa séparation. Donc l'un comme l'autre, on n'a pas envie de se ramener mutuellement chez nos parents. On discute toute la nuit dans sa voiture jusqu'à 8-9 heures du matin. D'ailleurs, je me rappelle, l'un comme l'autre, on inquiète nos parents qui nous appellent en nous demandant, mais qu'est-ce que t'as fait de ta nuit? T'es pas rentré? Et c'est une nuit où vraiment on se parle de choses profondes et en même temps de choses futiles. On se regarde beaucoup, mais on n'échange pas de bisous, pas de réel contact physique, il n'y a pas de gros câlins, il n'y a pas de tout ça. Et en même temps, ça fait du bien parce qu'il y a ce désir qui se met en place et qui n'est pas assouvi tout de suite. Et là, on cultive ce désir. Et à 8 heures, on se fait la bise et chacun repart de son côté. Et en même temps, on ne s'est pas embrassé, on s'est même fait la bise, on est parti, mais on sait l'un comme l'autre que ça viendra et que pour moi, à ce moment-là, je suis déjà en couple avec lui. Je ne l'ai pas embrassé, on ne s'est rien dit, mais je le sais au fond de moi qu'il y a une histoire qui vient de commencer et que c'est quelque chose de sérieux. On se revoit assez vite. Déjà, on parle tout le temps par message, on se raconte tout et on se revoit très vite. Dès le deuxième rendez-vous, évidemment, il y a le bisou, tant attendu, par l'un comme par l'autre. Ce bisou, il est magique, vraiment, et je le savoure. Il me fait des papillons, il me fait des frissons, il me fait comme dans les films, c'est vraiment un bisou d'amour. Je me sens revivre, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. J'ai l'impression que la Margot qui était au fond du trou il y a 2 mois, elle est très très loin. Et à ce moment-là, j'oublie tout ça. J'oublie et en même temps, lui, il continue à me faire comprendre que voilà, que ce que j'ai traversé, ça fera de moi quelqu'un avec une vraie histoire et qui va savourer encore plus les belles choses de la vie. Lui, tous les jours, même dès le début, il me dit, mais t'es une battante, t'as traversé tout ça et t'en as sorti grandi et en fait, tu vas continuer à grandir de tout ça. Et du coup, tout ça, c'est un peu derrière moi, ça fait partie de moi, je le garde parce que c'est mon histoire. Mais lui, il m'apprend à regarder devant et pas derrière. On est chacun chez nos parents, on n'a pas envie de se présenter tout de suite. Moi, j'ai pas envie, parce que je sais que ma mère est très inquiète à l'idée que je refréquente quelqu'un aussi rapidement après tout ça. Lui, bah voilà, il a eu cette relation longue, dans laquelle ses parents se sont beaucoup impliqués, donc c'est pareil, il veut pas présenter quelqu'un trop rapidement. Donc on se voit beaucoup dans nos voitures. C'est le mois de novembre, donc il fait froid. On passe des soirées dans la voiture. C'est pas toujours très très confortable. Et puis, bah, à un moment donné, on a le désir qui est bien présent. Et moi, je veux pas qu'on fasse notre première fois dans une voiture. J'ai envie de quelque chose de plus romantique. Et je pense que lui, il a beaucoup trop de respect pour moi pour le faire aussi dans une voiture. Donc, je prends un peu les devants et je réserve un soir un petit appart en Airbnb et on va aller passer notre première soirée au chaud déjà, au chaud dans un appartement et notre premier câlin, notre première nuit ensemble et c'est magique, c'est magique, c'est une nuit, c'est moi j'ai pas fait l'amour depuis très longtemps avec un homme donc j'appréhende effectivement un petit peu et en fait dès les premières minutes il est très rassurant, il est doux, il est tendre et en fait c'est naturel. C'est comme si on avait toujours fait ça tous les deux. Et puis en fait il y a toujours ce feeling entre nous qui fait que tout est naturel, tout est facile et surtout tout est plein d'émotions. C'est surtout ça parce que la fluidité je l'avais ressentie avec Jennifer, mais là il y a de la fluidité, mais il y a surtout des émotions très très fortes. Et ça, on le ressent tous les deux, quoi. On se quitte plus. On n'avait déjà pas envie de se quitter, mais on se quitte plus. Il n'empêche qu'on garde nos moments, chacun de son côté, et nos moments d'intimité avec nos amis, et voilà. Moi, je sors d'une grosse dépression, donc je suis pas prête non plus à faire de gros projets. Donc on parle pas du tout d'emménager ensemble ou quoi. Mais en même temps, on sait qu'on peut pas se quitter. Lui, à la base, voulait vraiment attendre avant de me présenter à ses parents. Au final, il me présente début décembre, donc ça fait 1 mois à peu près qu'on est ensemble. Donc ça se fait quand même assez rapidement au final. Parfois, je dis que je vais dormir une nuit là-bas et puis j'ai pas envie de partir. C'est terrible, j'ai pas envie de le laisser, j'ai envie de rester avec lui. Donc finalement, je reste 2 nuits, voire 3 nuits. Et ses parents sont très gentils, donc ça leur pose aucun souci. Moi, je les apprécie beaucoup. J'aime beaucoup passer du temps avec eux aussi. Quand on est là-bas, je suis pas que avec lui. On a nos petits moments où on est tous les deux, mais on partage aussi beaucoup de moments avec ses parents. ça me fait du bien. Moi, je retrouve une stabilité. Je suis avec la personne qui me fait sentir bien et je suis dans une famille où c'est serein, c'est fluide, c'est familial, c'est chaleureux et je me sens très bien. C'est clairement un sauveur. Moi, je le vois comme mon sauveur. Il me pousse en avant. Il me dit que je vais y arriver, que je vais recommencer à travailler comme infirmière. Que voilà, c'est pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience que je dois arrêter, que je dois abandonner. Parce que moi, j'ai peur. J'ai peur d'y retourner. Il me dit, mais non, mais tu vas trouver du travail. Mais il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Tu es extraordinaire. Tu vas y arriver. T'inquiète pas. Tu vas prouver aux autres et tu vas te prouver à toi-même. Il remplace mes antidépresseurs. En fait, il me motive et il m'emmène déposer des CV. Et la première journée où il m'emmène, je trouve du boulot. Et en fait, on se tire tous les deux en avant, puisque derrière lui, qui était entre deux emplois aussi, qui était un peu au chômage pendant cette période, je le booste aussi. Du fait d'avoir trouvé du travail rapidement, il se dit « bon, bah, moi aussi, je vais m'y mettre ». Il va aussi déposer des CV. On y va tous les deux ensemble, on fait tout ensemble. Et il trouve un emploi aussi dans l'automobile, alors que c'est sa passion. Donc, ses parents me disent au début, bon, bah, tu peux venir dormir à la maison quelques fois si tu veux, étant donné que mon boulot est plus proche de chez eux que de chez ma mère. Et puis, de fil en aiguille, je crois qu'il y a eu une seule fois où je suis rentrée chez ma mère et après, j'ai passé tout mon temps chez ses parents. Personne ne trouve ça bizarre. Ses parents, ils trouvent ça normal. J'habite chez eux. Ça dure 6 mois. Il y a le confinement entre-temps, en mois de mars. Et en fait, du coup, on est vraiment tous ensemble, tout le temps. Moi, je continue à travailler. Du coup, je travaille en laboratoire d'analyse médicale. Mais on est quand même tout le reste du temps ensemble. Et ça se passe très, très bien. Et donc, on commence à percevoir un petit peu ce que pourrait être une vie commune. Mais tout en se rendant bien compte que, voilà, vivre chez les parents, c'est pas non plus pareil que de vivre tout seul dans notre appartement. On commence à en parler tout doucement, mais tout doucement, parce que là, on est dans un petit cocon. Et puis, au bout de 6 mois, on va mieux. Moi, je vais beaucoup mieux. Je me sens bien. J'ai trouvé un équilibre. Au travail, ça se passe très bien. En fait, on commence tout doucement à parler d'habiter ensemble. On emménage au mois de juillet, tous les deux, dans notre petit appartement, notre petit cocon. Moi, je me fais un plaisir d'investir les lieux, de le décorer. Voilà, je reprends goût à tout ça, je reprends goût à la vie. J'aurais jamais imaginé aussi vite, en moins d'un an, réussir ce chemin. Voilà, au mois de septembre, je sors d'une clinique psychiatrique complètement brisée, en ayant tout perdu, mon couple, mon boulot. Et au mois de juillet suivant, j'ai un appartement, je suis épanouie dans mon couple et j'ai la vie devant moi, quoi. Et tout ça, c'est grâce à Valentin. Jamais j'aurais pu évoluer aussi vite. C'est mon pilier, il m'a sauvée, c'est mon sauveur. Pour le coup, il me le dit toujours, je suis la femme de sa vie. Il y a aucun doute, il le sait. Il n'a jamais été aussi sûr de lui, même quand il était à quelques mois de se marier. Et malgré le traumatisme que ça peut représenter, c'est lui, très souvent, qui me parle de mariage et qui me dit que dans sa tête, il me visualise et qu'il me voit dans ma robe de mariée, il voit que c'est moi. On en parle très souvent, on veut se marier, on veut avoir des enfants, on veut faire notre vie ensemble. On y va tranquillement parce qu'on a envie de profiter de la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt ou qu'on n'est pas sûr. On est sûr à 100%. Moi, si demain, je devais aller à la mairie signer un papier sans même mettre de robe ou de faire de fête, je le fais pour porter son nom, pour partager sa vie, toute ma vie. Voilà, j'ai arrêté les médicaments depuis qu'on a emménagé ensemble et je me porte très bien. Alors que tout le monde m'avait déconseillé de les arrêter si vite, même mon psychiatre n'était pas très chaud. Il pensait que c'était trop rapide et qu'il fallait que j'attende un peu. Et moi, je l'ai senti. J'ai senti que c'était le moment. J'ai senti que j'avais tout. J'avais tout ce dont j'avais besoin pour repartir du bon pied et avoir la vie que je voulais et la vie que je mérite, sûrement, j'espère. Je pensais avoir la vie de mes rêves quand j'étais à Nancy. J'ai une très belle histoire avec Jennifer et je cracherai jamais dessus, mais c'est rien comparé à ce que je ressens aujourd'hui. Et au final, aujourd'hui, je culpabilise beaucoup moins de lui avoir fait du mal parce que je me dis que bah, dans la vie, il faut aussi penser à son bonheur et que j'aurais jamais été aussi épanouie que ce que je suis aujourd'hui. Je préfère largement de loin la vie que j'ai aujourd'hui. Et là, pour le coup, c'est vraiment ma vie de rêve. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Je travaille plus à l'hôpital. J'y suis retournée un petit peu, quelques temps, mais je me suis vite aperçue que ça me correspondait plus. Et en fait, je suis épanouie comme ça. Peut-être que, voilà, c'est vrai que j'avais une ambition. J'avais l'ambition d'être une grande infirmière qui fasse de grandes choses. Aujourd'hui, être une petite infirmière qui fait des petites choses à son échelle, ça me suffit pour être heureuse. Et ça, c'est aussi grâce à Valentin qui me prouve tous les jours que il n'y a pas besoin de faire de grandes choses pour être une belle personne et voilà, ça me suffit. Au mois de juillet, à mon anniversaire, Valentin m'a offert un petit chien et moi j'en ai toujours voulu un. Il est venu compléter notre famille et on est très heureux comme ça. Là, on a fêté nos 2 ans d'amour. Et c'était incroyable, on s'aime comme au premier jour. Je ne sais pas décrire à quel point je l'aime, c'est viscéral, c'est à l'intérieur de moi. Je pourrais aimer que lui et il n'y aura que lui, c'est sûr, je le sais au fond de moi. C'est difficile de le faire valoir parce que quand on a 26 ans et qu'on a une relation de 2 ans, dire que c'est l'homme de ma vie, il y en a qui vont rayonner. Mais j'ai envie de dire qu'il a été pendant 8 ans avec quelqu'un qu'il allait se marier et qu'à côté de ça n'a pas marché. Donc il n'y a pas de règle. Et moi, ma règle, c'est que quand je le vois, je sais que c'est le père de mes enfants et que je vais passer ma vie avec lui.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.